Il y a deux moments dans l'année liturgique où nous faisons mémoire du corps et du sang du Seigneur. Évidemment, le Jeudi Saint, avec l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Et là, nous avons aussi un temps de procession, comme il vous sera proposé aujourd'hui de participer à la procession du Saint-Sacrement. Il y a cette procession qui veut imiter, rendre présent cet accompagnement des disciples qui suivent Jésus du Cénacle jusqu'au Jardin des Oliviers et donc accompagner le Saint-Sacrement au reposoir avant de vivre le Vendredi Saint. Mais il y a aussi cette fête Dieu, cette solennité du Saint-Sacrement, mais qui est éclairée d'une manière différente et qui renvoie sur le mystère du corps et du sang du Seigneur une autre lumière. Cette lumière, elle vient de la résurrection. Nous avons donc une fête du Saint-Sacrement, pour ainsi dire, liée à la Passion, et une fête du Saint-Sacrement qui est éclairée et fixée même dans le calendrier en fonction de la date de Pâques. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Au fond, nous célébrons le Saint-Sacrement, cette solennité du corps et du sang du Seigneur, dans une dimension missionnaire, parce que Pâques s'inscrit clairement dans cette dimension missionnaire. Va trouver mes frères, quand Marie-Madeleine voit Jésus au tombeau, va trouver mes frères et dis-leur. Et puis à Jésus, avant l'ascension, allez baptiser par de toutes les peuples, faites des disciples. Et je trouve que ça pourrait être intéressant de méditer comment chaque Eucharistie, au fond, a cette dimension missionnaire, à tel point que une communauté chrétienne, lorsqu'elle s'établit dans un lieu où il n'y a pas l'Eucharistie, eh bien son désir, c'est d'établir et de recevoir le corps et le sang du Seigneur, ce qui aussi nous renvoie en parallèle à cette prière à cette fête du Saint-Sacrement, une prière pour les vocations sacerdotales. Parce que précisément, c'est à partir de ça que la communauté chrétienne se soude, se rassemble autour du corps et du sang du Seigneur pour pouvoir prendre force et rayonner. Mais revenons à cette méditation de l'Eucharistie comme dans sa dimension missionnaire. Et j'ai pensé suivre tout simplement, rapidement pour ne pas être trop long, mais les différentes étapes de chaque messe. On a commencé par quoi depuis qu'on est ici rassemblés, le début de cette célébration? Réaffirmer la miséricorde de Dieu. On commence par ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que nous voulons participer régulièrement à l'Eucharistie dominicale, pour nous reprendre conscience dans notre vie que nous ne sommes pas livrés à nos psychologies blessées, mais que nous avons une miséricorde, une grâce qui nous est accordée et qui vient de l'Eucharistie, une grâce du pardon du Seigneur que nous célébrons chaque fois que nous nous rassemblons autour du corps et du sang du Seigneur. C'est une bonne nouvelle parce que pour beaucoup de personnes, et c'est aussi le drame de la sécularisation de nos sociétés d'Europe occidentale au moins, eh bien c'est de voir que sans Eucharistie, c'est quelque part la miséricorde de Dieu qui n'est plus au rendez-vous, le pardon, la réconciliation qui n'a pas sa force et sa source, comme on peut la découvrir, nous, dans cette intimité, cette communion au corps et au sang du Seigneur, c'est au fond une certaine désespérance. D'où le fait d'inviter à participer à une Eucharistie, c'est relancer nous-mêmes et relancer ce que nous invitons dans cette dimension de miséricorde et d'action de grâce, de réconciliation. Et puis, évidemment, il y a l'écoute de la parole de Dieu. Cette écoute aussi est une bonne nouvelle, savoir que Dieu nous parle. C'est beau parce qu'on souvent on entend, dans la prière, moi je parle à Dieu, mais Dieu ne nous répond pas. Et saint Augustin, lui, de dire, nous parlons à Dieu dans la prière et lui nous répond dans les Écritures. Donc, savoir que Dieu nous parle, là aussi c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle précisément parce que nous ne sommes pas seuls dans cette création. Nous avons un contact avec un Dieu qui s'est manifesté d'abord dans l'Ancienne Alliance et en ces temps qui sont les derniers, à la plénitude des temps, en Jésus-Christ. Donc cette écoute de la parole de Dieu peut représenter aussi, on le sait bien, de dimanche en dimanche, pour ceux qui sont plus habitués à participer à la messe dominicale, on voit que tel ou tel texte vient éclairer notre vie de façon nouvelle, parce que cette parole de Dieu, c'est une parole vivante. C'est pas simplement comme si on lisait les textes d'une sagesse, parfois très bonne, mais c'est pas la force de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. Et dans chaque Eucharistie, on écoute la parole de Dieu, cette liturgie de la parole, alors qui est suivie de façon plus ou moins heureuse par l'homélie. Alors, de temps à autre, c'est plutôt un passant, mais de temps à autre, ça nous requinque, ça nous redonne des forces, justement, pour éclairer cette parole. Et puis, ensuite, on réaffirme notre foi. Et c'est là, je trouve que, au fond, dans la vie spirituelle, l'Eucharistie, elle est centrale. C'est pas juste de l'ordre, j'allais dire, d'une dévotion, ou de l'ordre optionnel, ou quelque chose qui serait un peu la cerise sur le gâteau. Non. Elle est au cœur de notre vie de foi. On rappelle dans chaque Eucharistie dominicale notre foi, ce qui fait la foi de l'Église, ce qui nous rassemble. Parce que précisément, l'Eucharistie, son autre nom, c'est le mystère de la foi. Parce qu'il faut la foi pour pouvoir toucher dans ce pain et ce vin consacré le corps et le sang du Seigneur. Ça nous requinque dans la foi. Combien aussi nous prenons des moyens pour nous renforcer dans notre vie professionnelle, dans notre vie, dans votre vie familiale, votre vie conjugale. Eh bien, quel est le lieu où, de façon excellente, on est requinqué, renforcé dans notre foi, si ce n'est quand on la proclame ensemble, en communauté, comme nous allons le faire dans un instant. Oui, nous avons cette dimension de spirituelle, et c'est important aussi que certains d'entre vous sont venus en famille, et c'est très bien, parce que c'est justement à travers ces temps de célébration eucharistique, eh bien que dans la foi des parents, ils vont grandir, et ils vont découvrir aussi la beauté de l'Évangile. Et puis ensuite, cette foi-là, eh bien, on a cette foi dans un Dieu qui se laisse toucher, qui a pris notre humanité, qui s'est offert pour nous, la consécration du pain et du vin. C'est ce sacrement inédit, on peut dire. Je comprends très bien, je dis, j'aurais été à la place des Juifs, ben, j'entends quelqu'un qui me dit, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Ben, les Juifs disent, comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? La première fois, les gens, quand ils écoutaient ça, ils disent, mais c'est quoi? C'est les anthropophages. Et au début, les chrétiens ont été persécutés pour ça. Et donc, c'est quand même très étonnant, ce Saint-Sacrement, et en même temps de façon admirable, parce qu'on se dit, de façon non sanglante, évidemment, ce corps et ce sang du Seigneur nous sont offerts, comme ils ont été offerts du haut de la croix pour le salut du monde. Chaque fois que nous rappelons, nous faisons mémoire de cette passion, cette mort et cette résurrection du Seigneur, eh bien, ça nous est offert de dire que c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu insensible, c'est un Dieu qui s'est laissé toucher par les hommes et qui a souffert pour nous et qui s'est offert pour nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça nous envoie en mission. Hein, c'est vrai que, de ce point de vue-là, le christianisme dénote tout à fait par rapport à toutes les autres religions. Hein, alors que les autres religions veulent créer un pont avec Dieu, eh bien Jésus a dit « moi je suis le pont ». Et non seulement il a dit « je suis le pont », mais « je prends sur moi ce qui fait vos souffrances, vos difficultés quotidiennes ». C'est pour ça qu'on appelle aussi l'Eucharistie le pain d'effort. Parce que ça nous fortifie dans les épreuves, et ça c'est aussi missionnaire de dire que nous ne sommes pas livrés à nos forces, nous pouvons compter sur un Dieu qui s'est laissé toucher, hein, qui a pris notre nature, qui a pris nos souffrances sur lui, et qui se donne en nourriture à chaque Eucharistie. Et puis ensuite, la communion, quand on regarde un peu la structure, si vous avez l'occasion de travailler de façon plus approfondie sur la structure de la messe, parce que je vois aussi que même les pratiquants ne connaissent pas beaucoup la messe, la structure, comment ça a été construit au fil des siècles, mais tout converge à la communion. Et c'est vrai que cette communion, ça aussi c'est une bonne nouvelle à annoncer, et qui nous envoie cette communion avec Dieu coupée par le péché originel, maintenant elle est possible, parce que le Christ s'est offert pour nous. Et donc, de ce point de vue-là, cette communion avec Dieu, ce lien avec le Seigneur, eh bien, nous le vivons en recevant la communion pain eucharistique, et nous la recevons pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. C'est ça, c'est dans l'Eucharistie, il y a cette bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comment est-ce que ça se traduit? Par l'envoi de l'Esprit-Saint et aussi par l'Eucharistie qui nous est donnée chaque dimanche pour nous fortifier la communauté. Hein? Et puis ensuite, le geste de paix, c'est aussi un geste missionnaire, parce que c'est le seul lieu. Alors il y a deux lieux où vous saluez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Premièrement, c'est à la messe, parce que vous donnez la paix du Christ à votre voisin, en général, ou si on vous tend la main, voilà. Ben, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, ce qui nous vient de Jésus. Le Christ est notre paix, comme dit saint Paul. Et puis, c'est un autre lieu, c'est le stade. Mais c'est aussi un peu d'actualité, où quand l'équipe que l'on défend eh bien, gagne, eh bien, du coup, c'est des grandes embrassades, c'est des grandes, avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mais on appelle ça aussi, n'oublions pas, des grands-messes. Hein, les grandes compétitions, c'est la grand-messe. Bon, c'est intéressant de voir que c'est devenu aussi comme l'archétype, la messe, de tous les lieux de communion en dehors même de l'Église. Je trouve ça beau de dire cette communion, ce geste de paix que l'on se donne l'un à l'autre, ça fait quelque part aussi, comme dit saint Paul, en communion au même pain, eh bien on forme un même corps. C'est-à-dire qu'on n'est pas une juxtaposition d'individus. Dans la messe, on prend conscience qu'on est un corps. Qu'on est liés les uns aux autres. Je ne peux pas dire je sans dire tu, je ne peux pas dire tu sans dire nous. Hein, et ça, c'est vraiment un médicament qui nous est donné pour lutter contre cette maladie de l'individualisme. C'est un remède, c'est une guérison qui nous est donnée de cette manière de nous concevoir comme individu, comme seul au monde. Bien non, je fais partie d'un corps, et dans chaque Eucharistie, ce corps, que le corps familial, le corps de l'Église, évidemment, le corps social, bien se fortifie et puis ensuite c'est la bénédiction, l'envoi, la bénédiction. Voilà, Dieu qui dit du bien de nous, c'est tout, ça fait toujours du bien d'entendre du bien de soi. Eh bien, demandons au Seigneur que nous puissions, à travers cette Eucharistie, être relancés dans l'aspect missionnaire de notre vie et y découvrir la bonne nouvelle qui est annoncée dans chaque étape, et vous pourriez retravailler, ceux qui ont un peu de temps, retravailler chaque étape et de voir comme dans chaque étape, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée au cours de la célébration eucharistique. Eh bien, nous demandons vraiment cette bénédiction, nous puissions en bénéficier pour la transmettre autour de nous et la faire rayonner cet amour du Christ. Amen.